Beautiful people, c'est très bon ça pour commencer la journée ensemble. Très bonne fin de matinée à l'écoute de Bac FM. Le mercredi, c'est cinéma sur Bac FM et on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter. Vous aimez beaucoup cette émission, que vous soyez en voiture, chez vous, sur internet, bacfm.fr pour nous écouter. On perd pas de temps, tout de suite, c'est parti, générique.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de votre part sur cette émission Action qui est rediffusée en fin d'après-midi, que vous retrouvez évidemment en podcast sur le site internet bacfm.fr. On vous prépare de belles surprises d'ailleurs, on espère avoir de belles surprises à venir pour les prochaines émissions. En attendant, on va se concentrer évidemment sur celle-là, celle qui arrive, avec les dernières sorties ciné au Mazarin, la projection du premier cinéma pour les plus jeunes, à One Man Show aussi. Voilà le programme qui nous attend pour ce nouveau numéro d'Action. Et je suis évidemment accompagné de Laetitia. Salut Laetitia.
Salut.
Ça va ?
Eh ben ça va, là on a sorti les canapés, on n'a pas sorti le popcorn parce que je voudrais pas que t'aies un accident avant la fin de l'émission. Mais
ouais, ouais, ça, le popcorn c'est pas fait pour moi. Hein. Non, c'est pas fait pour moi. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour toi et notamment une, on va parler d'un film d'horreur tout à l'heure.
Un film d'horreur, ouais, et on va rester un peu dans le domaine du jouet hein, sur la nouveauté du film qui sort aujourd'hui.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai. Puis on te retrouve évidemment aussi en fin d'émission avec ton film du grenier, on parlera des autres. Laetitia.
Ouais, on va frissonner un petit peu ensemble.
Beaucoup de choses à voir hein, du coup encore aujourd'hui, le cinéma d'ailleurs qui continue à 13h avec mes invités. On va évoquer la programmation de Cinéquanon et de l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Mais tout de suite, il est temps de commencer cette émission et c'est avec les infos ciné.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Et j'ai présenté Laetitia, mais je n'ai pas présenté l'autre personne qui m'accompagne lors de cette émission, c'est Manuel. Bonjour Manuel.
Oui, bonjour Théo, bonjour Laetti, bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va ?
En forme, levé du bon pied, de bonne humeur et de bonheur aussi. Hein. Tu le sais, je suis matinal pour effectuer la lecture de la presse, ma petite revue de presse, et en particulier tout ce qui concerne la culture et tout spécialement, bien évidemment, le 7e art.
Est-ce que Grenoble va bien ?
Oui. Oui, la capitale des Alpes se porte bien. Alors moi, je suis pas à Grenoble même, je suis à Saint-Égrève, qui est à peu près à 6 km de Grenoble.
Oui, à côté, voilà. Juste à côté.
Voilà, exactement. Et Saint-Égrève, c'est une des portes de la Chartreuse. Et je suis vraiment très, très proche d'un cinéma, parce que je suis à 120 mètres donc du cinéma à l'avant-scène. Donc c'est pour vous dire que je rate rien de l'excellente programmation, très éclectique, à la fois des films d'art et essai, mais aussi des films grand public, donc je me régale.
Et tu le disais tout à l'heure, tu fais ta petite revue de presse chaque matin, et ça tombe bien parce que en début d'émission d'Action, on parle des infos ciné à retenir, et toi, l'info que tu voulais évoquer, c'est ça.
Je t'aime, ça y est, je sais que t'as besoin d'amour, mais avant, je vais te péter la gueule. Alors, pour te faire fermer ta gueule définitivement sur le film et sur le fait que t'aies écrit les scénarios, que c'est toi, que moi je suis un raciste, que machin bidule, que les trucs de machin, là, ok? Je vais te proposer un truc. Un combat, en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, comme ça on a le temps de se préparer, dont toutes les recettes iront à ton orphelinat, justement, ok? 3x3 rounds en anglaise, je vais te péter toutes tes dents. Je veux qu'on règle nos problèmes. Et je veux qu'on les règle en public. Parce que La Haine est un film public, ça fait 30 ans que ça fait partie de la communauté. Et je veux qu'on règle les problèmes en public parce que ça me fait marrer en fait.
Alors Mathieu Kassovitch qui s'adresse à Saïd Tagmaoui dans cette petite vidéo. Manuel, alors la question qu'on peut se poser, eh bien pourquoi tant de haine après La Haine ?
Oui, effectivement, Théo. Alors, c'est le combat un peu qui est souhaité par Mathieu Kassovitz. Hein, on vient de l'écouter et on le voit d'ailleurs. Hein, il est torse nu, pratiquement avec un short de boxeur. Alors il a encore le pied dans le plâtre, hein, parce qu'on se souvient qu'il avait eu, on l'avait évoqué d'ailleurs dans Action, un grave accident donc de voiture, voilà, sur une voiture très très rapide, mais il espère se remettre en selle rapidement pour être prêt pour ce combat. Alors dans le coin droit, si je puis dire, un peu comme pour un match de boxe, il y a Mathieu Kassovitz, 56 ans, on le sait, il est réalisateur, producteur, il a eu aussi un César. Et puis dans le coin opposé, eh bien Saïd Taghmaoui, 50 ans, comédien, une vingtaine de films à Hollywood à son actif, et il y a entre les deux un conflit tenace avec un nouveau round, un nouveau rebondissement. Trois vidéos ont été postées sur le compte Instagram de Mathieu Kassovitz. Vous l'avez entendu, il est plutôt incisif puisqu'il menace de péter toutes ses dents à son ancien pote de la haine, et tout ça pour régler leurs différends à travers ce fameux combat de boxe anglaise. Il le dit, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, s'emporte le réalisateur des rivières pourpres. Alors, ce qui est important à retenir, Théo, ça n'est pas la chute, c'est l'atterrissage, hein, c'est la fameuse phrase passée à la postérité, hein, dans ce film culte sur les banlieues, qui avait été réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995.
Mais d'ailleurs, cette vidéo, cette proposition un petit peu de Mathieu Kassovitz, ça va avec l'ambiance du film aussi.
Oui, complètement raccord, hein, puisqu'on parle de cinéma avec le film en question. Alors, il faut rappeler les trois acteurs principaux. Il y avait donc Saïd Taghmaoui, Vincent Cassel et puis Hubert Koundé, on l'oublie souvent. Et alors, pourquoi justement cette haine, alors qu'ils ont été très proches, notamment au moment du tournage, les deux acteurs, ils étaient d'ailleurs, ils le disaient, à l'époque on était soudés tous les quatre, et Mathieu Kassovitz l'a déclaré, on peut pas faire un film comme ça si on n'a pas une bonne ambiance, hein. Donc alors pourquoi cette brouille, pourquoi justement tant de haine? Pour Mathieu Kassovitz, l'acteur américain désormais, un peu hein, Saïd Taghmaoui, puisqu'il fait l'essentiel de sa carrière là-bas, il a pris un autre chemin, il est rentré dans un délire et paraît-il, donc il insulte, il y a des tombereaux d'insultes sur son téléphone portable, il y a des textos, il y a des messages qui n'arrêtent pas donc de le rabaisser plus bas que terre. Et puis en fait, si on regarde vraiment très précisément le dessous des cartes, c'est souvent une affaire d'argent.
Mais oui, bien sûr.
Voilà. Et en l'occurrence, Mathieu Kassovitz, c'est à la fois l'auteur, le réalisateur de ce film. Et comme se profile à l'horizon la comédie musicale tirée du film La Haine, donc avec là encore des droits d'auteur à la clé. Et Saïd Taghmaoui dit qu'il a participé à l'écriture du scénario, notamment certaines répliques désormais cultes qui sont issues de son quotidien quand il était dans les banlieues. Donc voilà, en fait, hein, ça fait...
Si ce film n'aurait pas eu autant d'engouement, je ne suis pas sûr que cette histoire aurait été évoquée là dans Action, et je ne suis pas sûr que Mathieu Kassovitz aurait fait cette vidéo, par exemple.
Non, mais je pense que... Après, au-delà de Mathieu Kassovitz, il faut aussi se pencher sur la psychologie du personnage.
Oui.
Quand on le voit, j'invite les auditeurs à regarder un peu cette vidéo, parce qu'on le voit teigneux, on le voit à un moment, il est en train de se laver les dents, se brosser les dents, et il a une espèce de boule de haine envers Saïd Taghmaoui.
Mais ce qui rappelle encore une fois une scène du film La Haine, hein, d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Et alors moi, le conseil que j'ai à donner à Mathieu Kassovitz, parce que pour l'instant Saïd Taghmaoui n'a pas répondu, hein, à cette provocation. Là, on voit, c'est son ego qui parle à 2000%, l'ego de Mathieu Kassovitz. Et à mon avis, l'ego, la plupart du temps, il ne faut pas l'écouter parce qu'il prend le dessus sur le reste. Et c'est souvent, l'ego est souvent très mauvais conseiller, donc il faut laisser retomber un peu tout ça. Essayer de dialoguer, en plus quand il y a eu une telle complicité, c'est bien dommage d'en arriver là, alors que justement la comédie musicale va redonner encore à ce film et aux 25 ans du film. Eh bien, toute la notoriété qu'il mérite. C'est bien dommage. Voilà ce que je voulais expliquer un peu dans cette news Action, mon cher Théo.
Ouais, mais puis ça va aussi un petit peu avec l'image qu'a Mathieu Kassovitz, parce que c'est un réalisateur, c'est un acteur, d'accord, mais on peut le dire aussi, c'est un peu un polémiste, et ça va avec le personnage.
Oui, ça va bien avec le personnage. On sait qu'il s'est jamais laissé enfermer, qu'il rebondit avec, avec, je le disais, une espèce de férocité, voilà, parce que quand même, en arriver à déclarer « je vais te péter toutes tes dents » et avec une, en plus, il se filme en gros plan avec une agressivité assez phénoménale, donc. Voilà, il est lui aussi cohérent, mais on a l'impression quand même qu'il menace un peu à la manière de Booba. C'est bien dommage parce que c'est un acteur. Il a joué dans le film Amen de Costa Gavras. Il a fait plein de rôles. Regarde Les Hommes Tombés aussi de Jacques Audiard. C'est un acteur phénoménal. C'est aussi un bon réalisateur. Donc dans une autre vidéo, il dit « Ah, Saïd, je suis inquiet, ça fait 72 heures qu'on te cherche, bien sûr, on sait que t'es complètement bidon et tout. » Bon, en arriver à de telles extrémités, franchement, c'est...
C'est pas forcément utile, oui, bien sûr.
Non, c'est pas utile, et puis c'est totalement contre-productif et complètement dommageable.
En tout cas, c'est une info qui fera plaisir aux dentistes. Merci, Manuel.
Oui, exactement.
On te retrouve dans quelques instants pour évoquer un film qui sort aujourd'hui. On te retrouve dans quelques minutes, Manuel.
Ouais, à tout à l'heure pour justement ce gros plan.
Alors moi, l'actu que j'ai retenu, par exemple, c'est Franck Dubosc qui va mettre en scène son troisième long métrage. Il va s'appeler Un ours dans le Jura. Alors il est en ce moment en tournage dans le Haut-Jura. Franck Dubosc, réalisateur, et joue également dans son propre film aux côtés d'un très beau casting. Lorca Lamy, il y a Benoît Poulvorde, il y a Joséphine Demeaux, il y a Kim Higelin aussi. Ses deux premiers films avaient très bien marché. Tout le monde debout en 2018, c'est 2,4 millions de spectateurs. Et puis Rumba la vie, alors c'est que 290 000 entrées, mais le film il avait subi l'épisode Covid, donc forcément... Les salles de cinéma avaient été fermées. Deux premiers films de comédie pure, et c'est ce qu'il voulait changer. Justement, son nouveau film se rapproche plus de la comédie noire. Il l'avait expliqué d'ailleurs à France 3, Franche-Comté. Je voulais en récupérer un extrait, mais je me rends compte que j'ai oublié de le récupérer. Un ours dans le Jura se déroulera donc dans une maison isolée au milieu d'une forêt jurassienne, où vivent Michel et Catiste, un couple de quinquagénaires, joués donc par Franck Dubosc et Lorca Lamy. Leur vie va basculer le jour où un ours manque de percuter leur voiture, et ça va provoquer la mort de deux autres personnes dans un autre véhicule. Et le couple, donc Franck Dubosc et Lorca Lamy, vont trouver dans le coffre des victimes un magot de 2 millions d'euros et devra donc composer avec l'inspecteur de la région qui est joué par Benoît Poulvorde. Le tournage il doit se terminer dans quelques jours, à la fin du mois. La sortie elle est attendue pour 2025. Et alors, pour ceux qui ne veulent pas attendre, eh bien j'ai une solution, peut-être pour vous. En fait, c'est plus une manière de se mettre dans l'ambiance de ce film. On va garder la neige et les chalets en bois qui sont au programme du film, et un chalet bien connu maintenant, il est disponible à la location sur Airbnb. Alors cette musique, elle est connue de nombreux d'entre vous maintenant, c'est la musique du film hyper récompensé Anatomie d'une chute. Le chalet, il est situé à Villars-Rambert en Savoie. C'est le chalet dans lequel a été tournée une grande partie du film, qui a été mis en location donc sur la plateforme Airbnb. Le logement, il peut accueillir jusqu'à 4 adultes. Alors plus exactement, c'est une partie du logement. La location, elle concerne un appartement en duplex avec terrasse privatisée en rez-de-chaussée. Alors bien sûr, les réservations, elles ont été prises d'assaut quand la nouvelle a été mise en avant, car beaucoup de personnes qui ont vu le film voulaient ressentir l'atmosphère si importante dans le film de Justine Triet qui se dégage de ce lieu. Voilà donc pour l'info que j'avais donc à vous communiquer. Alors il y a les Oscars dimanche qui arrivent, ce sera le gros sujet de mercredi prochain. Mais avant tout ça, on va passer aux sorties ciné. C'est parti.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et 6 nouveaux films à l'affiche de votre ciné Mazarin cette semaine, avec 6 films qui donnent les frissons pour faire plaisir à Laetitia, un des 6 films qui fait plaisir à Laetitia.
Ouais, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu là, ça faisait au moins 2-3 semaines.
Ouais, c'est vrai, t'étais en manque, tu commençais à trembler, je te voyais.
Je commençais à être au bout de ma life, ça y est, c'est bon, j'ai eu ma dose.
Un film complètement barré aussi, Laetitia, tu vas voir ça avec moi, et puis un biopic. Mais on va commencer avant ça avec Black Tea, 10 ans après Timbuktu, le cinéaste Abderrahmane Sissako, film filme une histoire d'amour entre un vendeur de thé cantonais et une immigrée ivoirienne. Les préjugés même, vont venir s'immiscer dans cette histoire d'amour qui la mettra donc à l'épreuve. Black Tea, un film très poétique, très joli à voir au ciné Mazarin. Et puis, poétique et envoûtante, comme l'histoire un petit peu de Boléro. Letty, sous la direction d'Anne Fontaine, Raphaël Personnaz et Maurice Ravel, le réalisateur de la musique du ballet d'Ida Rubinstein, qui est joué par Jeanne Balibar. On va écouter peut-être d'ailleurs cette musique.
Petit extrait du Boléro ?
Ouais, allez, soyons fous. Voilà, là on reconnaît.
C'est
hein.
Ça.
Ouais, ça c'est le Boléro de Maurice Ravel. Alors c'est connu pour beaucoup maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette commande, elle l'a tétanisé à l'époque. Elle l'a même mis en panne d'inspiration. Et ce film, c'est ce qu'il va montrer via la situation du compositeur, qui montre les différentes étapes de sa vie, finalement, à travers la composition de cette musique. Il y a les échecs de ses débuts, il y a la fracture de la Grande Guerre, l'amour impossible qu'il éprouve pour sa muse Misia Certes, qui est jouée dans le film par Doria Tillier. Maurice Ravel, il va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre, et c'est ce qu'on découvre dans ce film qui a le titre de cette œuvre devenue universelle, le Boléro, bande-annonce.
Félicitations, monsieur Ravel.
Merci.
Cher maître, votre musique m'a électrisé.
Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête ?
Pas moi qui vais le voir, c'est Maurice Ravel.
Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel ?
Pas grand-chose, je le crains.
On va reconnaître ton excellence.
Sont éliminés au premier tour, Ravel.
J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache.
Un jour, tous ces imbéciles du jury le regretteront.
Allez, chef ! Allez, chef !
Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel. De l'envoûtant. De l'érotique.
Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion.
Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez, on va mieux quand on ose.
Tous les sons, tous les bruits deviennent musique. Je crois à quelque chose qui doit surgir, une idée. Je vous embrasser, Michel, et je vous mentirais si je vous disais que j'en ai pas envie. Mais ça, n'importe quel homme peut le faire. Moi, j'ai préféré composer de la musique pour vous.
Il y a un autre homme dans ma vie, Maurice.
Vous avez libéré votre nature volcanique.
Ce morceau n'a aucun sens, c'est un exercice de style, ça n'est même pas de la musique.
J'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout.
Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai.
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Vous le savez très bien.
Peut-être qu'un jour vous apprendrez à aimer votre musique.
Le Boléro, c'est l'histoire de cette composition de Maurice Ravel et c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. C'est un film d'Anne Fontaine.
Ouais, et le Boléro de Ravel, est-ce que tu savais que c'était la musique la plus utilisée au monde en musique d'attente ? Tu sais, quand tu téléphones quelque part.
Ah ouais, les attentes téléphoniques
ouais.
Ou ça.
Ouais, ouais.
Ou...
Et ça, alors je sais pas si ça rapporte encore de l'argent aux héritiers de Maurice Ravel, mais en tout cas.
Ah ouais, bonne question, tiens. Est-ce qu'ils ont des droits encore d'auteur sur cette
musique ? Je sais pas, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, c'est une des musiques les plus utilisées au monde.
D'accord.
Pour les attentes téléphoniques.
Ouais, quand on appelle les acédiques ou ces trucs-là,
par exemple.
Ou oui, enfin, plein de trucs, quoi. Ouais, d'accord.
De quoi la faire détester à beaucoup de monde alors qu'elle est sublime, cette
musique.
Mais
je pense aux acédiques, d'ailleurs, parce que c'est la musique dans Intouchables.
Oui.
Que Omar Sy, quand François Cluzet lui fait écouter des musiques, et là, donc c'est le Boléro de Ravel, et il dit « Ah, c'est la musique des ascétiques, ça !» Ouais, effectivement, Letty, très
bonne anecdote. Je pense que c'était
anecdote.
Pas innocent, d'ailleurs, qu'ils aient fait la référence dans le film.
Oui, je pense, ouais. Bien sûr, bien évidemment. On va aller vers un autre film, maintenant, avec Vincent Lindon, avec Carole Rocher, qu'on a vu dans Police, par exemple, notamment, de Maïwenn, et Stéphane Virgile Stoïka, jeune acteur, qui sont à l'affiche d'un drame français. Nicolas Boukrieff filme le parcours de Jacques Roman, qui est un professeur qui a perdu sa vocation. Il est témoin d'une agression dans une épicerie de quartier. Il va permettre l'arrestation de l'un des voleurs qui s'appelle Victor et qui a tout juste 14 ans. Et puis à travers ce film, il va connaître l'histoire de ce gamin qui est déscolarisé, qui est forcé à voler pour survivre. Et Jacques va tout mettre en œuvre pour venir en aide à ce jeune, quitte à affronter ceux qui l'exploitent. Il va lutter contre les réticences même de Victor pour tenter de lui offrir un avenir meilleur. Et Jacques va changer son propre destin même à lui. Ça s'appelle Comme un fils et c'est un très très beau film. Laetitia, la programmation du cinéma Zarin, je le disais tout à l'heure, elle nous permet aussi d'avoir quelques frissons cette semaine.
Oui, oui, après Megan et Five Nights at Freddy's qui ont marqué l'année 2023, eh bien les jouets continuent à nous terrifier. Et c'est au tour de l'ours en peluche Chauncey de s'amuser avec nos nerfs dans Imaginary. C'est le nouveau film de chez Blumhouse Productions. Alors ça, Blumhouse, c'est la société de prod qui domine actuellement le cinéma d'horreur.
C'est la référence.
Il y a énormément de films qui sortent de chez eux. Il y a du très bon, il y a du très mauvais. C'est un peu à double tranchant en ce moment chez eux. Alors là, la réalisation, elle est signée de Jeff Wadlow. Il est connu pour, notamment dans le domaine de l'horreur, avoir réalisé Action ou Vérité, Nightmare Island et puis Le Mauvais Esprit d'Halloween, qui sont trois mauvais films.
Ah ok, bon d'accord.
Après, voilà, on va dire que c'est trois brouillons et peut-être signe-t-il ici son chef-d'œuvre, je ne sais pas encore. En tout cas, de quoi ça parle Imaginary ? Eh bien en fait, lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance avec sa famille, elle remarque que sa plus jeune belle-fille, qui s'appelle Alice, va développer un attachement particulier, étrange, envers un ours en peluche qu'elle trouve dans le sous-sol et qu'elle va nommer Chauncey. Alors au début, il s'agit simplement d'un petit jeu innocent, mais... ce petit jeu, ça va devenir de plus en plus préoccupant parce qu'Alice, elle va commencer à changer. Il va commencer à se passer des choses pas très sympathiques.
Ça va partir en steak.
Ouais, et Jessica, elle va commencer à réaliser que Chauncey, c'est pas simplement un jouet ordinaire, mais qu'il cache quelque chose de bien plus sinistre. Et ça va aller fouiller un petit peu dans les traumatismes de son enfance à elle. Bande annonce.
Ça te fait quoi d'être de retour ?
C'est super. J'ai de si bons souvenirs ici. Mon petit coin de paradis pourrait aussi devenir le nôtre.
Qui t'a laissé tout seul ici ? J'ai joué à un nouveau jeu avec Chauncey.
Une liste de chasse au trésor ? Super.
Chauncey dit que t'as pas le droit de jouer avec nous.
Oh.
Parce que tu l'as abandonné. Il me faut un truc joyeux.
Un truc joyeux.
Oh, je croyais que t'avais peur des insectes.
Si je finis ma liste, Chauncey va m'emmener en voyage chez lui.
Quelque chose qui fait mal.
Alice !
Tu passes du temps avec un nouvel ami ? Il t'a demandé de te faire du mal ?
C'était pour jouer.
Tu crois que c'est ce que voudrait un véritable ami ?
Peut-être qu'on devrait plus jouer ensemble, Chauncey. Peut-être qu'on devrait plus être amis.
Non, Alice.
Elle a disparu. Mais on va la retrouver. Dans toute culture, il existe des entités qui sont liées à l'enfance. On les appelle les amis imaginaires. Tu jouais en permanence avec ton ami imaginaire. Quand le lien est rompu, l'entité se déchaîne.
Il dit qu'il est juste derrière toi.
Je peux jouer avec ton ami imaginaire ?
Il n'est pas imaginaire. Il n'est pas ton ami.
Ça s'appelle Imaginary, ça sort aujourd'hui et vous pouvez aller le voir dès cet après-midi au ciné Mazarin si vous avez envie de vous faire un petit peu peur.
Imaginary, ça veut dire imaginaire, Letty.
Et oui, et justement, voilà, ça joue beaucoup sur, comme on l'a entendu dans la bande-annonce, ça se résume pas à une histoire d'ours en peluche et une histoire d'amis imaginaires, tout ça. C'est, aux États-Unis, c'est très populaire d'avoir un ami imaginaire quand on est enfant. En France, plus qu'en France.
Ouais, bien sûr.
Et voilà, donc allez voir, allez découvrir. Moi, je vais en faire de même et puis je vous donnerai mon avis.
Et justement, l'imaginaire, on va rester dans l'imaginaire, comme celui complètement fou du réalisateur Bruno Dumont. Il offre dans son film L'Empire une vision caustique, cruelle et surtout déjantée de la guerre des étoiles. C'est un casting 5 étoiles dans ce film avec Fabrice Luchini, Camille Cotin et Lina Koudry. Alors je vous invite à aller voir la bande-annonce car vraiment c'est étonnant. Le film a été bien reçu par la critique presse comme les premiers spectateurs. Mais c'est vrai que c'est un film, on peut pas vraiment dire grand chose dessus parce que, enfin, ça part. Enfin, tu vois dès la bande-annonce que ça part dans du grand n'importe quoi, en fait.
C'est osé de s'attaquer à cet univers-là. Hein.
Ouais, vraiment, ouais. Mais les acteurs, ils sont pour beaucoup aussi dans le délire. Mais j'ai vu une interview de Fabrice Luchini qui dit que quand il a reçu le scénario, il a dit non parce qu'il avait rien compris. Et en fait, le réalisateur l'a invité à manger et lui a dit « Écoute, c'est pas grave si tu comprends rien, fais le film quand même. » Et Fabrice Luchini, quand il est invité sur, je crois que c'est à Quotidien, il dit « Ouais, bah, de toute façon, j'ai rien compris au film, mais bon, je l'ai fait et maintenant que le montage est fait, ouais, je comprends. » Mais c'est vrai que jusqu'au dernier jour où on jouait notre rôle, quoi, je comprenais pas. Je comprenais pas ce que je regardais, je comprenais pas ce que je faisais là, en fait, voilà. Donc c'est pour montrer un petit peu, peut-être que c'est voulu aussi du réalisateur de rester assez flou envers ses acteurs pour rendre ce film complètement barré. Mais pour les personnes qui connaissent le cinéma de Dumont, c'est un petit peu connu pour eux.
Ouais, c'est quelqu'un qui donne un peu dans l'absurde.
Ouais, on peut être un petit peu dans du Dupieux, autre version, mais un petit peu, voilà, un cinéma très propre à lui. Voilà, on termine avant de retrouver Manuel par la comédie de cette semaine. C'est un film d'Edouard Pluvieux qui est inspiré de l'histoire vraie de Maxime Gasteuil. Il a commencé sur scène, Maxime Gasteuil, où il raconte cette histoire personnelle pour enfin la mettre sur grand écran. Il est cadre ambitieux, dans ce film il ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, qui est la fille de son patron. En fait, il est surtout au bord du burn-out, mais il est tout seul à ne pas s'en rendre compte, oui. Il se retrouve embarqué par son futur beau-père qui est Romain. Beau-frère, pardon, je vais pas y arriver. Il se retrouve embarqué par son futur beau-frère, oui, c'est mieux, Romain, au beau milieu de son pire cauchemar. C'est un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de clairvoyants avec des stagiaires qui sont tous plus lunaires les uns que les autres. 14 jours pour aller mieux, c'est au cours desquels, eh bien, ses principes et ses préjugés vont être soumis au régime de zénitude et de bienveillance, bande-annonce.
Maxime Ouvrard from Jardilux. What do you mean, la décision, elle est pas t'équelle?
Vous parlez pas boulot aujourd'hui?
Non.
En plus, il y a Romain, il est trop content de te voir.
Max ! Yes !
Non, mais Romain est trop content, il est toujours content, Romain, de toute façon.
Romain, un piano, il tomberait sur la gueule, il dirait « T'as, j'adore la musique hein. !»
Il est là, Maxime ! Hubert. Comment ça va, le meilleur d'entre nous ?
Hubert, il faut vraiment que je vous parle du contrat.
Max !
C'est un déjeuner de famille, on est dimanche, on parle pas business.
Max ! Oh, putain, mais merde, ma veste ! La mère la pute, putain !
Vocabulaire,
putain,
hein !
De pute, là !
On est dimanche.
La pute.
J'en peux plus de tes humeurs.
C'est justement le thème du stage que je vais faire. Comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer.
Bah c'est super pour là avec toi.
Ah mais super idée. Oh, oh. Tu vois, c'est joli.
Ouais, c'est joli, on va à Poudlard. Je te préviens, je tiendrai pas 4 jours, hein. Désolé.
Ah, on t'a dit 4 jours. C'est 14.
Allez, ciao.
Je vais aller fouiller dans vos tripes pour faire bouger vos énergies.
Ils sont tous instables en fait.
Wow.
Non mais Wolverine. C'est les X-Men en fait.
Faut qu'on me touche le clito. Toi, t'es dans la vérité. Tu veux plus rien me cacher.
Faut que j'aille faire caca.
Faut trier quand même, hein. T'es pas obligé de tout me dire.
Et les saucissons, du pâté, un truc à bouffer, là. C'est un stage pour les tortues, en fait.
Maman, je t'ai dit que je n'étais pas joignable cette semaine.
Ton père est en train de faire visiter le magasin à un agent immobilier.
C'est pas assez grand ici pour me coller comme des tiques, là.
Le connard du groupe, quoi.
Tu as entendu, par contre. Mettez votre masque.
Non, mais ça va aller, monsieur.
Mets ton masque lépreux, je t'éteins la lumière.
Tu veux pas me toucher le clito?
Pardon?
Vous êtes en danger, j'ai vu un reportage sur 90 minutes d'enquête exclusive.
Si vous sentez en danger, vous faites le code.
Non, pas que.
Je vais encastrer tout le monde.
Alors, t'aimes bien la nourriture vegan?
Ouais, tu vois, j'ai décidé de vivre comme une chèvre. Puis après, je vais aller me faire tirer le lait pour faire des yaourts bio.
14 jours pour aller mieux, alors je vous garantis qu'après cette séance, vous irez mieux. C'est la comédie de cette semaine et c'est au cinéma Zarin, évidemment. Manuel arrive dans quelques instants pour évoquer un film sorti cette semaine. Il nous reste deux petits trucs aussi à voir ensemble. Et le film du grenier, évidemment, de Litty. Et c'est juste après quoi?
C'est juste après James Brown et Tupac avec le titre Unchained.
Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me. Y'all remember me.
Last
chance, Fancy Pants.
Oh, very well.
Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me.
I like the way you die, man.
Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Yup, y'all remember me.
I like the way you die, man.
Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me. Legendary, live eternally. Bury me in pieces cause they fear reincarnation. Scream in peace cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them, murder them up. Out of weight and quickening and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now, even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. You going through outlaws, busting and busting, we untouchable.
Ça, c'est bon ça, Letty?
Ouais, c'est un extrait de la BO du film Django Unchained.
J'aime beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. Très très bien.
Vous écoutez Action, votre rendez-vous ciné du mercredi matin sur Bac FM. On revient sur les infos à retenir et les sorties ciné de chez vous à Nevers évidemment. D'ailleurs, le cinéma continue à 13h avec Ciné Conan et l'Acné, je vous le rappelle, ce sera à 13h. Manuel va nous parler du dernier film de Julien Carpentier dans quelques instants, s'appelle La vie de ma mère. C'est juste après la bande-annonce.
Allez, vas-y, aide-moi à finir les bouquins.
Lisa, ta pseudopote.
Sont incroyables ces roses, on dirait qu'elles ont été dopées.
Je les arrose avec du blanc d'œuf le matin.
Ça va pas?
Si, si, mais là j'ai une urgence.
Maman?
Mon fils! Oh! Tu es contente de nous? Tu es contente!
Comment t'es sortie là?
Par la porte, figure-toi. Tu devrais essayer. Allez, chez les dentistes avec ta maman. Je sais pas quoi faire.
Là, ça va, c'est gérable. Mais tu sais comment ça se termine parfois.
Maman!
C'est moi, bon, elle se doute de rien. Je la ramène à la clinique.
Maman! Ah, pas marre d'une sclante là, sérieusement.
Désolé.
Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu crois que c'est facile? Tu penses que c'est cool d'avoir une mère comme toi en fait?
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si
j'ai plus l'impression d'être un flic qu'un fils.
On peut pas la forcer à soigner. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec votre soutien, elle peut aller beaucoup mieux.
Ça va, t'as jamais fait de conneries, toi? Ça va pas?
Là, j'ai plus la force pour ça.
Pour que tu m'oublies.
Je n'ai pas exprès d'être comme ça. Je m'en rends pas compte, en fait.
Ça va aller. Je suis avec toi, je te lâche pas. Je voulais pas que ça se passe comme ça.
Pour elle, toi.
La vie de ma mère, William Legbill, qui crève enfin l'écran, Manuel, dans ce film.
Oui, c'est incontestable. Alors, William Legbill, il faut le dire, le situer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore cet acteur de 33 ans. Il a été aux côtés de Kev Adams, l'un des héros de la série Soda. Et depuis quelque temps, donc voilà, il essaie de percer sur grand écran, et c'est le cas avec La vie de ma mère. Il incarne le personnage de Pierre. C'est un fleuriste qui possède sa propre boutique, un petit commerce qui est en pleine expansion, grâce à l'amabilité sincère, eh bien, de celui qui gère la boutique, hein, c'est donc Pierre. Et puis il a donc à ses côtés un personnage aussi qui est un petit peu son bras droit, qui va l'aider dans sa mission. C'est un garçon hyper sympathique, il est gentil, il est toujours prêt à rendre service, il est passionné par son métier. Il a aussi toujours des attentions bienveillantes envers ses clients. Et puis, cette apparente sérénité va voler en éclats lorsque un personnage de son passé refait surface. Il s'agit de sa maman, c'est Judith, interprétée par Agnès Jaoui. Alors elle, c'est une femme extravagante, un peu en roue libre, excentrique, elle est toujours fantasque, baroque, totalement imprévisible. Voilà pour le retour de cette maman. qui va vraiment perturber le quotidien de ce fleuriste, à tel point qu'il va laisser la gestion de sa boutique à son complice, et il va partir un peu avec sa maman sous la forme, et le film prend une autre dimension un peu sous la forme d'un road movie, et c'est réalisé par Julien Carpentier. Et j'avais rencontré le metteur en scène, c'était en novembre dernier au festival aux rencontres de Bourg-Père. C'est un jeune cinéaste et il y a une dimension autobiographique parce que il le disait, il a eu des relations compliquées avec sa maman, et cette confrontation entre Pierre et Judith, les deux personnages, avec une dimension douce amère, permet de donner aussi aux côtés des deux personnages principaux des rôles secondaires. On citera notamment Lisa, qui est interprétée par Alison Wheeler, qui est vraiment épatante dans chacune des scènes qu'elle interprète. Et puis il y a, je le disais, et tu le précisais dans ton lancement, Théo, William Leadgill, dans le rôle de Pierre, il crève l'écran et il trouve ici son premier grand rôle. Je pense que ça devrait lui permettre d'enclencher sur d'autres rôles au moins aussi importants, et puis surtout susciter le désir des réalisateurs de pouvoir le prendre dans leurs univers.
D'ailleurs, William Leadgill, qui peut être un acteur qui peut jouer dans beaucoup de rôles, hein, qui peut être à la fois drôle, oui, mais à la fois aussi très touchant, et qui peut être dans des dimensions assez étonnantes, hein, d'acteur.
Oui, il a, tu as raison, Théo, il a une palette vraiment qui est assez large. Il a été révélé au travers de la comédie la série Soda, je le précisais. Il faut d'ailleurs le dire, le film La vie de ma mère a remporté le prix du public. C'était au Festival du film francophone d'Angoulême, c'était donc l'été dernier. Et beaucoup mis sur William Leadgill, avec ce spectre large dans son interprétation. C'est une jeune carrière, puisqu'il n'a que 33 ans. Et en plus, c'est un jeune garçon qui vient de Seine-et-Marne, de la banlieue de Seine-et-Marne, qui était un peu enrobé quand il était gamin, et qui a eu à faire face parfois un petit peu à des complexes dont il a su triompher. Il le disait il y a pas si longtemps, à 13 ans il était en surpoids, et on l'avait fait pour une scène de petit théâtre amateur. Il devait jouer un bébé en couche-culotte, et il avait eu un peu honte le jour de la représentation. Il avait enlevé son t-shirt, mais ça a été un déclic pour lui, parce que il a fait en sorte de perdre du poids, et ses parents l'ont soutenu dans sa quête, et ça a été le déclic qui lui a permis ensuite d'enclencher avec la série Soda. Et puis il y a aussi, il faut préciser, Riyad Sattouf, qui l'a fait tourner dans Jackie au Royaume des Filles, et ça a été le premier à croire en lui. C'est d'ailleurs devenu un peu un mentor pour William Leadgill.
Et on le retrouve donc dans ce film qui s'appelle La vie de ma mère, et donc un premier, enfin vrai premier grand rôle pour William Leadgill, entouré donc de grands acteurs, comme à l'image d'Agnès Jaoui. Merci beaucoup, Manuel.
Mais ce fut un plaisir, mon cher Théo. Donc bonne émission, bon film du grenier pour l'été. Et puis n'oubliez pas, donc selon la formule consacrée, allez au cinéma, le vrai, sur grand écran, bien sûr.
Merci Manuel, à vendredi.
À vendredi.
Allez, juste avant maintenant de retrouver le film du grenier de Letty, juste un mot sur le premier cinéma, des séances pour les plus petits et leur permettre de découvrir l'ambiance du cinéma. C'est les nouvelles aventures de Pat et Matt qui sont proposées cette semaine, avec une première projection tout à l'heure à 16h30 dans quelques heures, et puis une autre samedi à 16h30, et puis deux dimanches. Voilà, c'est des projections de 40 minutes. Ça permet aussi aux plus petits de découvrir un petit peu cet univers qu'est le cinéma. Et puis autre chose aussi qui est moins pour les plus petits, c'est un one-man show qui vous est proposé, Anesthésie Générale. C'est le spectacle événement de Jérémy Ferrari.
Mon spectacle va être diffusé dans vos cinémas en direct depuis Bercy le 10 mars 2024, mais il y en a certains d'entre vous qui se disent « Oui, mais Jérémy, moi, je connais mal ton univers. Peux-tu me le décrire ?» Mon univers, avant tout, il est familial.
Il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie.
Alors moi, je fais toujours des spectacles à thème, celui-là, il est sur la santé. Il n'y a pas de vulgarité, je déteste la vulgarité.
PD, connasse, pute, bâtard, tiens.
Je ne me moque jamais du malheur des gens.
Le tétraplégique.
Je ne prends jamais à partie les représentants politiques. Ils ont été élus et je respecte ça.
Agnès Buzyn, Yvette Ndiaye, Olivier Véran, Macron, ils leur ont fait une loi, ces fils de pute.
En résumé, un spectacle pour toute la famille.
Bon, alors voilà, je l'avais dit, hein, c'est pas forcément pour les plus petits, près de 3 heures de show.
À ne pas confondre avec la première séance des petits. Hein.
Oui, oui, voilà, ouais, vous trompez pas d'horaire, près de 3 heures de show avec des surprises inédites dans une ambiance totalement survoltée. Alors après la religion et la guerre, eh bien l'humoriste s'attaque, comme vous l'avez entendu, à la santé, c'est une thématique relativement explosive. L'ultime représentation de sa tournée est retransmise en direct au cinéma depuis l'Accor Arena de Paris-Bercy. Voilà pour l'actu du ciné Mazarin cette semaine, et puis si ça vous plaît pas, eh bien Létiel vous propose, comme tout les mercredis en fin d'émission, une Madeleine de Proust avec son film Du Grenier.
Alors pareil, hein, pas pour les trop jeunes quand même, faut quand même avoir un certain âge. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre dans sa célèbre pièce Huis clos. Oh. Eh bien, voilà une citation qui résume parfaitement, je trouve, Les autres, un film espagnol du réalisateur Alejandro Amenábar, sorti en 2001, avec dans le rôle principal une Nicole Kidman absolument incroyable. À la croisée entre le film d'horreur, le thriller et le drame psychologique, Les autres, c'est une histoire de fantôme dont le twist final a de quoi renverser les convictions des plus cartésiens. Considéré aujourd'hui comme un film culte, Les autres, c'est un chef-d'œuvre du cinéma horrifique. On va voir pourquoi dans quelques instants, mais juste avant, on se met dans l'ambiance avec la bande-annonce.
Bon, je commence. Comme vous le voyez, le ménage a été assez négligé depuis que les domestiques ont disparu il y a 8 jours.
Les domestiques ont disparu ?
Volatilisés. Peut-être devrais-je vous présenter aux enfants.
Vous allez nous quitter, vous aussi ?
Pourquoi est-ce que je vous quitterai ?
Oui, c'est ce qu'ont dit les autres. Mais ils nous ont quittés et c'est arrivé après.
Mes enfants ont parfois des idées excentriques. Mais n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants.
Pourquoi tu as ouvert le rideau ?
C'était Victor. Tu as dit à ton petit frère qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre.
C'est vrai !
Arrête, Anne. Qu'est-ce qu'il y a ?
Moi aussi, je les ai vus.
Vous les avez vus ?
Je crois, enfin, il me semble, que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants.
Il y avait des voix, un petit garçon, il parlait avec deux femmes.
Maman,
je les ai entendus tous les trois.
Maman, regarde.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Ils sont partout, ils disent que la maison leur appartient.
Non ! Les enfants !
Viens vite.
Courez ! T'entends toi aussi ? Il y a quelqu'un dans la pièce.
Tôt ou tard, ils vous trouveront.
C'est moi, je suis ta fille.
Alors, l'histoire des autres, ça se passe en 1945. Alors que la guerre vient de se terminer, Grace vit seule avec ses deux enfants dans une immense demeure victorienne totalement isolée sur l'île de Jersey. Son mari étant pas encore revenu du front, elle assure seule l'éducation de Anne et de son petit frère Nicolas. Un jour d'épais brouillard, il y a trois inconnus qui viennent frapper à la porte du manoir et qui proposent leur service en tant que domestique. Justement à la recherche de personnel, Grace embauche sur le champ Madame Mills, qui est une femme d'âge mûr, et Lydia, une jeune muette, pour tenir la maison, ainsi que Monsieur Tuttle, un homme, lui, d'un certain âge, qui va s'occuper des extérieurs. Mais attention, Grace met directement les nouveaux domestiques au parfum concernant l'organisation très particulière au sein de la demeure. En effet, ces deux enfants souffrent d'un mal étrange, ils ne peuvent supporter la lumière du jour. Ainsi, il ne faut jamais ouvrir une porte avant d'avoir fermé la précédente, et surtout, les rideaux doivent impérativement être tirés lorsque les enfants sont dans les parages. Des instructions qui n'ont pas l'air d'alarmer les employés de maison, et pour cause, eh bien, Madame Mills révèle à Grace qu'ils connaissent parfaitement les lieux, puisqu'ils ont travaillé pour les anciens propriétaires il y a plusieurs années de ça. Alors, pourtant, Grace, si elle est soulagée d'un côté d'avoir enfin de l'aide pour régir la maison, bah elle va rapidement déchanter puisque l'arrivée de ses nouveaux employés coïncide avec le début d'événements qui vont devenir de plus en plus étranges. Entre les pleurs qu'elle entend qui proviennent d'un enfant qui n'est pas le sien et sa fille qui affirme voir un jeune garçon prénommé Victor ainsi que d'autres gens dont une vieille femme très effrayante, la foi de Grace qui est pourtant extrêmement pieuse commence sérieusement à vaciller. La maison serait-elle hantée ? Et si finalement les autres n'étaient pas ceux que l'on croyait ? Attention, la réponse risque de vous bouleverser.
Et c'est justement à travers tout ce scénario que dans les autres, eh bien, les mécanismes pour effrayer le spectateur, les spectateurs sont différent des autres films d'épouvante qu'on peut voir.
Ouais, c'est vrai, parce qu'en général, dans le cinéma, alors hollywoodien en particulier, on utilise souvent les mêmes ressorts hein, pour jouer avec nos nerfs, alors qu'on a par exemple les grands renforts d'effets spéciaux, on a les jumpscares, ouais. Il y en a qu'on use et qu'on abuse. Et ben, dans les autres, Alejandro Amenábar, il joue sur la sobriété, et il préfère installer l'angoisse en misant d'une part sur l'atmosphère du lieu, donc ce grand manoir gothique qui est aussi austère que sinistre, et qui de surcroît est plongé dans l'obscurité les trois quarts du temps dans le film, hein, à cause de la maladie des enfants, et puis d'autre part, et ben, en laissant une part très très importante au psychologique, puisqu'il nous fait partager et ressentir à la fois l'inquiétude, les doutes, et puis la paranoïa croissante de Grace face aux événements.
On est un peu dans du Hitchcock, hein, finalement.
Ah mais totalement. D'ailleurs, à la sortie du film, Alejandro Amenábar, il va déclarer que le fantôme d'Hitchcock, il était autour d'eux durant tout le tournage. Et puis, il y a aussi ce personnage de Grace, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, moi, je sais pas si son prénom, il a été choisi en référence à l'actrice Grace Kelly, mais la prestation livrée par Nicole Kidman dans Les Autres, ça en fait une véritable héroïne hitchcockienne.
Ouais.
Dans sa tenue, sa coiffure, sa façon de se comporter dans le film, c'est assez criant. Et puisqu'on parle influence, j'en profite pour souligner qu'Amenábar, il s'est beaucoup inspiré aussi pour ce scénario des autres, de deux célèbres films fantastiques gothiques des années 60. Alors, il s'est inspiré pour le premier de La Maison du Diable, qui est l'adaptation du roman Maison Hantée de Shirley Jackson, et l'autre, c'est Les Innocents, qui est lui adapté du roman Le Tour d'écrou d'Henry James. Et ces deux films et romans, ils ont eux aussi respectivement inspiré un petit peu plus tard deux séries à succès de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, voilà, qu'on cartonnait sur Netflix. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que pour Bly Manor, Mike Flanagan, il soit lui-même inspiré du film Les Autres.
Et d'ailleurs, cette maladie-là que tu évoquais tout à l'heure, dont souffrent les enfants, elle existe vraiment ?
Eh bien, ouais, au vu des symptômes, tout laisse penser que Anne et Nicolas, ils sont atteints de la maladie des enfants de la Lune. Alors, dans son nom scientifique, ça s'appelle la Xeroderma pycnosum. Et c'est une maladie génétique qui est extrêmement rare et qui se caractérise, donc, on l'a dit, hein, par une sensibilité excessive de la peau aux rayons ultraviolets. Et puis, ces gens-là ont un risque accru de développer des cancers de la peau. Et ce film, il a permis d'ailleurs de mettre en lumière la maladie, puisque sur les bonus du DVD, on peut trouver un reportage sur la famille Seris, qui est la fondatrice de l'association Enfants de Lune. Et cette famille-là avait deux de ses enfants qui étaient atteints de cette maladie.
Et alors, ce film, il a reçu un excellent accueil à sa sortie.
Ouais, et à la fois de la part de la critique et du public, et ça c'est assez rare, et du coup il a été suivi d'une flopée de nominations et de récompenses. Alors il a notamment été nominé pour 15 Goya Awards, c'est l'équivalent espagnol de nos Césars. Il en a remporté 8, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, ce qui était une première pour un film en langue anglaise. Il a également été nominé pour 6 Saturn Awards, il en a remporté 3. Amenábar sinon a été nominé pour le BAFTA du meilleur scénario original, ce qui est rare pour un film d'horreur. Et puis enfin, le cas Nicole Kidman, hein, puisque elle a été nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique et pour le BAFTA de la meilleure actrice dans un rôle principal. Alors là, je vous en ai donné qu'une petite...
Il y a eu beaucoup d'autres récompenses.
Ouais, la liste est non exhaustive. En tout cas, 23 ans après sa sortie, Les Autres, c'est un film incontournable dont le twist final est aussi mythique que celui de Sixième Sens. D'ailleurs, la théorie soulevée par le réalisateur dans le film Les Autres serait, selon certains spécialistes du paranormal, loin d'être délirante. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez vu, revoyez-le et réfléchissez un petit peu à tout ça. Et juste pour terminer, alors je ne sais pas si c'était l'effet du confinement, mais en 2020, il y a eu des rumeurs concernant un remake du film, ainsi qu'une adaptation en série qui ont circulé. Alors depuis, pas de nouvelles, c'est bien dommage, mais bon, affaire à suivre. En tout cas, le film est dispo sur Netflix.
Et ça reste à voir, évidemment. Merci, Letty.
Merci, Théo.
On se retrouve à 13h, on va continuer de parler cinéma avec Séni Quanon et avec l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Et puis vous avez rendez-vous à midi dans quelques minutes maintenant avec Culture en vrac pour avoir toutes les actus sur la maison, l'ancienne maison de la culture à Nevers. On se retrouve, nous, à 13h, à tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.